Maintenant, ça se trouve de plus en plus rare. Ça n'a pas encore été éradiqué, mais nous avons diminué les taux de rayons dans la population.
Mais dans plusieurs pays, surtout les pays développés, les oreillons ont quasiment disparu ou alors le taux de prévalence est très bas. Mais pourquoi en Afrique, ce taux est plus élevé que dans d'autres pays?
Tout dépend du programme élargi de vaccination. Lorsque le programme élargi de vaccination est très efficace, nous trouvons des taux de rayons très bas. Par exemple, un pays que je connais très bien, le Cameroun, il y a peut-être 30 ans, nous avons à peu près 10 à 15% des enfants de l'âge de 4 à 5 ans qui avaient le rayon. Maintenant, nous sommes à moins de 5%. Nous avons fait des progrès énormes. Et je profite de cette occasion pour dire que des vaccins tels que les vaccins de le rayon, qui sont des vaccins viraux, ça veut dire que c'est le virus lui-même qui est introduit chez le patient. Mais ce virus est atténué, il est affaibli. Mais il peut toujours générer une réponse immunitaire puissante. Ça veut dire que ce sont des meilleurs vaccins. Les meilleurs vaccins sont des vaccins dont on utilise des virus encore vivants, mais atténués. Ça donne une immunité à vie en général. À quelques exceptions près, l'immunité est la meilleure. Par contre, il y a d'autres vaccins qu'on vous remet l'immunité dans votre corps. Ça veut dire que ce sont des facteurs qu'on appelle, des vaccins qu'on appelle passifs. On vous donne une immunité passive. Cela ne dure que 2 ou 3 ans. J'insiste sur ce sujet parce que depuis un certain temps, on parle du vaccin du corona. Et il y a beaucoup de polémiques. Les vaccins sont des produits très efficaces. Et nous devons être contents que la science a pu permettre qu'on évite des morts à cause du vaccin.
Alors, docteur, comment est-ce qu'on attrape les oreillons?
L'oreillon, c'est une maladie virale. Le virus s'appelle paramyxoviridé. C'est un virus très, très contagieux, mais ce n'est pas un virus très virulent. Il y a une différence entre la capacité d'être propagée, qui s'appelle la contagiosité, et la virilité. C'est un virus très faible, sauf quand il attrape un adulte ou un adolescent, c'est un peu plus virulent. Mais en général, chez les enfants, ils n'ont besoin de rien à part contrôler la fièvre et dans certains cas, les méningites qui vont dans le cerveau. À part ça, ce sont des maladies très bénins.
Et donc, s'il y a une personne qui souffre des oreillons, il faut la mettre en isolement?
Oui, il faut l'isoler. Pas en quarantaine, mais il faut l'isoler. Et comme je le dis, il devient une maladie un peu plus grave avec l'avancée d'âge. Ça veut dire que si l'enfant a moins de 10 ans, en général, ce n'est pas un problème. Mais quand ça commence à un enfant de 14 à 16 ans, ça devient compliqué. Et chez l'adulte, c'est une maladie sévère.
Donc, si je comprends bien, les personnes à risque, ce sont les enfants.
Les enfants sont des personnes à risque, oui. C'est une maladie d'enfant, 4 à 5 ans. C'est là où il y a la prédominance de rayon. Mais c'est aussi une bonne nouvelle. En général, elle n'est pas très sévère chez ses enfants.
Alors, docteur, est-ce qu'une femme enceinte peut transmettre les oreillons à son bébé à naître si elle-même, elle en souffre?
Ok, c'est une très bonne question. Et elle revient à ce qu'on appelle l'immunité. Est-ce qu'une femme qui est enceinte a l'immunité? En général, oui. Pourquoi? Parce que quand elle était jeune, elle a aussi pris le vaccin de l'oreillon. Ce vaccin, qui est un vaccin, qui est un virus qu'on inocule chez vous, mais un virus faible, toi-même, tu développes l'immunité, qui est une immunité active, et tu passes cette immunité à l'enfant. C'est le pourquoi on ne fait pas des vaccins de virus actifs aux enfants qui ont moins de 1 an. Parce que pendant les 12 premiers mois, l'enfant vit encore sur l'immunité que la maman a transmise pendant la naissance. C'est le pourquoi on attend jusqu'à 1 an pour donner ces vaccins, puisque vous êtes déjà protégé par la mère pendant les 12 premiers mois.
Et donc, c'est après 1 an que l'enfant recevra le vaccin?
Le premier vaccin de l'oreillon s'est fait à l'âge de 12 mois. On ne peut pas le faire avant 12 mois parce que vous êtes déjà protégé par ce que la maman vous a donné.
OK. En ce qui concerne le traitement, Pierre-Joseph revient. Il veut savoir si cette maladie peut aussi être traitée traditionnellement.
Comme je vous ai dit, il n'y a vraiment même pas de traitement en tant que tel pour l'oreillon. Ce qu'on fait, c'est mitiguer les symptômes. Ça veut dire que quoi? On n'attaque pas le virus. Parce que quand vous dites que quelqu'un a une maladie virale, le traitement devait être un antiviral. Mais dans ce cas, on ne le fait pas, on ne donne pas d'antivirus. Ce qu'on donne, c'est des calmants, des symptômes. Ça veut dire que vous avez la fièvre, on vous donne un anti-fièvre. Vous avez les maux de tête, on vous donne un anti-maux de tête. Vous avez les douleurs musculaires, on vous donne un anti-douleur musculaire. Voilà tout ce qu'on fait. On renforce le système immunitaire de l'enfant et on lui laisse combattre la maladie par lui-même, qui lui donne, après cette maladie, une immunité active pour tout le reste de sa vie.
Et ça veut dire qu'une fois qu'on a souffert des oreillons et qu'on est guéri, on ne peut plus jamais attraper cette maladie.
Oui, c'est la caractéristique de l'immunité qu'on acquiert par manière active. Avec un peu de nuance, oui, on ne peut pas. Mais depuis quelques années, on a trouvé qu'il y a quelques personnes qui n'ont pas cette immunité totale. Ils ont une immunité à 95%. C'est le pourquoi plus récemment, on a demandé de vacciner ces gens quand ils sont des adolescents, quand ils vont à l'université. Mais ça, c'est nouveau. Mais l'oreillon n'est pas parmi ces vaccins dont on a demandé de le refaire. Mais on trouve qu'au lieu de 100% d'immunité, elle est autour de 95%.
D'accord, docteur. Comme c'est une maladie qui est contagieuse, certainement il y a des moyens d'éviter cette maladie. Quelles sont les mesures qu'on doit observer pour éviter les oreillons?
La première chose, c'est que c'est une maladie qui vient en général en pandémie ou en épidémie. Ça veut dire qu'elle est regroupée au moment où elle vient. Quand elle vient, on doit prendre des précautions. On doit prendre des précautions d'isolement. On doit prendre des précautions de ne pas être dans des foules. On doit isoler le malade de ses amis. En général, ce sont des enfants de 4 à 5 ans. Il faut tout faire pour les isoler des autres enfants. Ils ne vont pas à l'école pendant ces moments.
Alors, si les oreillons ne sont pas bien traités ou sont maltraités, ou bien si les oreillons sont négligés, quelles sont les conséquences qu'ils peuvent provoquer dans la vie du malade?
L'oreillon peut inflammer d'autres endroits différents de la glande salivaire. Ils affectent les glandes salivaires, mais ils peuvent aussi affecter d'autres endroits. Quels sont les endroits? La méningite. Ça veut dire qu'il va au niveau du cerveau et provoque une inflammation qui s'appelle la méningite ou l'encéphalite. Il va au pancréas, faire une pancréatite, et lorsque ça attaque les organes génitaux, vous pouvez faire une orchite. Vous avez l'inflammation de vos testicules.
Alors, nous avons ces Blaise Tosanga Wonga qui revient. Il dit qu'il a appris que les oreillons peuvent provoquer la stérilité chez l'homme si les oreillons ne sont pas traités. Il veut avoir des informations sur ça.
Oui, comme je disais plus tôt, les trois grandes complications de l'oreillon, c'est la méningite, la pancréatite et l'orchite. L'orchite, c'est l'inflammation des testicules. Et lorsque les testicules s'inflamment, elles diminuent la production de spermatozoïdes. Et la diminution des spermatozoïdes peut entraîner l'infertilité. Oui, mais cela ne s'applique que lorsque l'oreillon attrape un adolescent ou un adulte. Les oreillons chez les enfants de 4 à 5 ans ne mènent pas à la stérilité.
Mais est-ce que cette stérilité-là, elle est traitable ou pas?
Elle dépend du dégât que l'inflammation a eu sur les tubes qui produisent les spermatozoïdes. Lorsque le dégât est partiel, vous pouvez produire. Mais lorsqu'il est complet, il n'y a plus rien qui reste dans l'organe de production des spermatozoïdes. Alors, elle est irréversible.
Et donc là, l'homme va rester stérile toute sa vie sans possibilité d'avoir des enfants.
Oui.
Et pour éviter d'en arriver là, docteur, quels sont les conseils que vous pouvez prodiguer aux hommes qui souffrent certainement des oreillons ou qui négligent souvent les oreillons?
La première chose, c'est d'éviter d'avoir les oreillons. Comment on évite d'avoir les oreillons? On se vaccine. Le programme élargi de vaccination a fait des miracles et continue à faire des miracles. C'est une prévention contre des enfants qui mouraient de l'oreillon. C'est une prévention contre la stérilité. C'est le pourquoi je redis, lorsque nous mettons en place des programmes tels que le programme élargi de vaccination, il sauve des vies. Le premier vaccin a été découvert en 1881 par un Anglais appelé Edward Jenner. Et depuis cette production, il a sauvé plus de 600 millions de vies. Alors, nous devons suivre les conseils des médecins et vacciner les enfants tels que prescrits par l'Organisation mondiale de la santé.
Alors, vous savez, docteur, qu'aucun combat de ce genre ne peut être mené sans l'appui des autorités politiques. Alors, quelle est la part du gouvernement dans la lutte contre les oreillons?
Le gouvernement, et je crois que c'est à travers le monde, on a mis ce qu'on appelle le programme élargi de vaccination, qui, n'est-ce pas, va de village en village et de ville en ville pour prévenir les maladies infectieuses. Je sais que depuis plus de 30 ans en Afrique, un programme robuste a été établi dans tous les pays et les résultats sont là. Les enfants ne meurent plus beaucoup de varicelle, de variole, de la coqueluche. Toutes ces maladies ont été rabaissées à cause du programme élargi de vaccination. Ce qui peut nous manquer, c'est des moyens et les ressources pour, n'est-ce pas, atteindre les bas-fonds du village. Mais l'OMS, avec le ministère de la Santé publique, ont mis en place, n'est-ce pas, des solutions à ces problèmes.
Et quelles sont ces solutions? Comment est-ce que vous, les agents de l'État, vous pouvez avoir accès aux personnes qui vivent dans des coins reculés, dans les petits villages, où les gens parfois meurent des maladies bénignes, où les gens peuvent souffrir, par exemple, de la stérilité juste à cause des oreillons? Qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce cas-là?
La politique qu'on utilise, c'est faire l'unité de santé publique, l'unité de base. Augmenter l'accessibilité aux soins de santé pour les malades, ça veut dire que quoi? Ramener la médecine où le malade vit. On doit construire des unités de santé, des petites cliniques dans les plus profonds des villages. Quand vous faites de telle sorte que la structure médicale est proche du malade, le malade, d'une part, se sent responsable de cette structure. Il devient une partie intégrante du management et du fonctionnement de la structure et nous gagnons des deux côtés. Le malade se sent responsable de sa santé et les gens de la santé sont capables de parler le même langage parce que l'unité de santé est dans l'environnement où le malade vit. Ça veut dire que nous pouvons voir qu'ils boivent de l'eau qui n'est pas potable, de l'eau sale. On peut voir que les latrines sont trop proches de la maison. On peut voir qu'il y a des insectes qui rôdent autour. Et tout ça s'intègre. Pour donner une bonne santé, il faut l'environnement et il faut les médicaments.
Merci beaucoup. Et quel est le rôle que la famille, les amis ou les parents peuvent jouer dans la lutte contre les oreillons?
Ouais, c'est l'éducation. D'abord, savoir que c'est une maladie qui peut avoir des effets néfastes, mais dont on peut prévenir. Et la prévention est très simple, c'est prendre la vaccination. Les vaccinations qui se donnent à 1 an et à 5 ans. Lorsque vous êtes vacciné, vous êtes à 95% au moins sûr que vous n'auriez pas cette maladie. Ce qui fait que nous devons vacciner tous nos enfants avant qu'ils n'entrent à l'école primaire. Parce que lorsque vous vaccinez 90% des enfants qui entrent à l'école et il y a 10% qui ne sont pas vaccinés, qu'est-ce qui se passe? Ils contaminent tout le monde. C'est pourquoi on parle de herd immunity, l'immunité de communauté. Toute la communauté doit être vaccinée pour se protéger ensemble.
Mais vous savez, docteur, il y a des gens qui sont très réticents à la vaccination, parfois même des villages entiers qui refusent la vaccination. Comment est-ce qu'on peut faire pour combattre cette réticence puisqu'elle expose beaucoup de personnes aux différentes maladies comme les oreillons?
Nous pouvons tout simplement les rappeler qu'il y avait certaines maladies qui tuaient nos enfants il y a 50 ans. Telle que la variole, elle n'existe plus. On a éradiqué la variole. Il y a la varicelle qui causait beaucoup de problèmes. Elle existait très peu. Il y a même la poliomyélite qui causait à ce que certains enfants devenaient des infirmes. Nous avons pu stopper tous ces problèmes-là. C'est expliquer aux gens que la médecine est là pour le bonheur et pour la santé du monde. La médecine n'est pas là pour nuire aux usagers. Les vaccins sont là pour nous protéger. Ce n'est pas du poison.
Merci, docteur. Je pense qu'il n'y a pas meilleur conseil pour conclure cette interview. Nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions et d'avoir accepté d'être une fois de plus notre invité.
C'est un privilège pour moi de participer, n'est-ce pas, à éduquer la population. Merci.
C'était notre discussion sur les oreillons avec le docteur Constantine Tienkou. Il nous a expliqué, entre autres, les complications liées aux oreillons, notamment comment ils peuvent affecter ou compromettre la stérilité chez l'homme s'ils sont maltraités ou négligés.
Maintenant, place à Carnet de santé présenté par Linor Moudou.
Cette semaine, dans Carnet de santé, nous jetons un regard sur l'importance du sport pour les enfants pendant le confinement. En Éthiopie, les enfants partagent avec nous leurs activités physiques préférées. Ensuite, un instructeur en arts martiaux nous dit comment il essaie d'équilibrer le karaté avec un mode de vie sain pour les enfants. Bonjour, Lénore Moudou en votre compagnie. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. La pandémie de COVID-19 continue d'impacter notre vie et nos habitudes au quotidien. Les experts recommandent plus de sport pour les adultes comme pour les enfants afin de rester en bonne santé physique et mentale durant cette période préoccupante et stressante pour beaucoup. Au Sénégal, où l'état d'urgence a été levé fin juin, les clubs de vacances ont rouvert. Certains ont choisi de limiter le nombre de participants, mais il est peut-être difficile d'imposer la distance physique avec les enfants. Alison Lekogo Fernandez et Mbaye Ndiaye ont visité l'un de ces clubs à Dakar.
Héloïse et sa sœur cadette, Camille, viennent passer tous leurs après-midi depuis 2 semaines dans ce club pour enfants en bord de mer. Au programme, natation, canoë-kayak, trampoline ou encore pêche à la ligne, les activités sont multiples et destinées aux enfants de 3 à 12 ans. Ici, pas de règles de distanciation physique à respecter pour les enfants. Une mesure qui serait anxiogène, selon Marie Altounian, la fondatrice et gérante du club.
Les mesures, elles sont prises par rapport aux parents. Moi, je porte un masque et mes monitrices qui sont en contact avec les parents. En revanche, je n'impose pas à mes maîtres nageurs qui sont en plein soleil et dans l'eau de porter un masque. Les enfants ne portent pas de masque. Il y a une prise de température à l'arrivée. On a pris le parti de réouvrir pour penser à l'équilibre des enfants. Voilà, j'ai pensé moi en tant que maman.
Marie est la mère du petit André à 5 ans qui a été perturbé par 3 mois de confinement. Sédentarité, stress, colère, troubles du sommeil, de nombreux enfants ont pâti de l'isolement. Alors, la réouverture de ce club a été pour beaucoup d'entre eux une bouffée d'air frais.
On fait de la pêche, du trampoline, des fois on va dans la mer, on fait du pédalo, ensuite on saute dans l'eau. Après, on fait aussi de la plongée, on voit des murelles, on voit des trous de murelles. Et aussi, c'est ça qui est bien et qu'on s'amuse bien.
Découvrir les animaux marins, sociabiliser, se dépenser, les bénéfices sont pluriels.
2 pour Mamadou.
Pour les parents aussi, c'est une aubaine. Dans un pays où il reste difficile de voyager en raison des restrictions qui pèsent sur le trafic aérien.
En cette période de vacances, beaucoup de familles n'ont pas pu partir en vacances. Et donc, il n'y a pas beaucoup d'activités qui sont offertes aujourd'hui au Sénégal et à Dakar. Donc, c'était une bonne alternative pour occuper les enfants qui ne restent pas sur les tablettes à longueur de journée.
Une alternative qui n'est toutefois pas à la portée de toutes les bourses au Sénégal. Pour une semaine, il faut compter 35 000 francs CFA, soit une 60aine de dollars. Alison Lekogo Fernandez pour VOA Afrique, Dakar.
Quand on recherche un mode de vie sain, il est essentiel de suivre une routine autant que faire se peut et rester focalisé. Nous nous sommes entretenus avec Ricky Faisbark, un instructeur d'arts martiaux à Chevy Chase au Maryland, qui explique comment il aide les enfants à se développer sur les plans physiques et mental. Regardez.
Kenzendo Karate and Foxhall Wellness.
Kenzendo Karate et Foxhall Wellness est une école d'arts martiaux et de bien-être qui enseigne le karaté ainsi que tous les types de mouvements à des personnes de tous âges. L'objectif est d'apprendre à tout le monde à bien vieillir en continuant à bouger. Mon objectif pour chaque étudiant qui vient dans ce centre est de développer un état d'esprit de croissance. L'idée est de ne jamais abandonner et travailler pour s'améliorer. Les principaux avantages pour les arts martiaux et le karaté sont au nombre de 3. Il s'agit essentiellement de développer la confiance, la concentration et la capacité de persévérer et ne pas abandonner.
to develop their focus.
À cause de la pandémie du coronavirus à laquelle tout le monde est confronté, tout a été amplifié à mon avis. Nous sommes des créatures de l'habitude. Ce que nous faisons aujourd'hui détermine en quelque sorte ce qui se passera demain. Pour nos jeunes enfants, ils ont besoin de bouger, de jouer, mais bien sûr de manière responsable et intelligente avec la pandémie. Tout ce que nous faisons se passe maintenant sur Internet. Il existe donc de nombreuses façons pour les gens de profiter du côté virtuel. Cependant, il est très difficile d'amener les enfants à utiliser l'ordinateur, en particulier les plus jeunes. Je sais que beaucoup de parents ont des difficultés. Le seul conseil que je donnerais, c'est de ne pas abandonner. Rester en bonne santé, rester actif, faire de l'exercice, bien manger. Le régime alimentaire est très important. Gardez également à l'esprit que dormir régulièrement est très important. Beaucoup d'enfants restent éveillés plus tard et ils en souffrent. Alors, gardez votre routine habituelle de sommeil, mangez le plus de plantes et de légumes sains si possible, boire beaucoup d'eau, faites de l'exercice et souriez, soyez heureux parce que la vie est belle.
Quel est le sport préféré des enfants? Voici ce que certains enfants à Dirdawa, en Éthiopie, nous ont confié concernant leurs activités physiques préférées.
J'aime rouler en arrière, les activités sur une jambe, l'équilibre. J'aime tout ce qui vient du cirque.
J'aime le football, le cirque et le karaté. Et je travaille dans des clubs de cirque.
J'aime le wushu, les arts martiaux et le kendo. Ils utilisent des épées et des mains. J'ai déjà utilisé l'épée, mais je suis encore novice.
Je préfère jouer au ballon, faire du vélo et courir.
J'aime faire du vélo, jouer au football, au volleyball, courir, faire du jogging et des pompes.
Le confinement dû au Covid-19 en Afrique du Sud suscite des inquiétudes quant à l'aggravation de la malnutrition infantile. Cela a longtemps été un problème, mais les mesures de contrôle de la pandémie ont interrompu les programmes alimentaires du gouvernement pour les plus vulnérables. Voici le reportage de Franco Puglisi à Johannesburg. Le récit est de Mohamedou Mfa.
Les mesures visant à limiter la propagation de la pandémie de COVID-19 ont entraîné des perturbations dans la production et la distribution des aliments, accentuant les problèmes d'alimentation, en particulier chez les enfants.
Plus de 400 000 enfants n'ont pas accès à la nourriture, donc à la sécurité alimentaire. Un déficit de nutrition adéquate des enfants est sans aucun doute une situation grave, une situation qui nécessite une attention particulière.
À cause du nouveau coronavirus, il y a eu un ralentissement des activités économiques avec ses conséquences.
Pendant le confinement, nous avons constaté que de nombreuses personnes ont perdu leurs revenus, que ce soit dans le secteur formel ou informel. Je pense que beaucoup de gens ont énormément souffert à cause de cela.
Les experts pensent que cette situation va aggraver la malnutrition des enfants dans ce pays où entre un tiers et un quart des enfants souffrent d'un retard de croissance.
Les enfants ne consomment pas suffisamment les aliments nutritifs dont ils ont besoin pour leur croissance. C'est la cause immédiate de leur malnutrition. Chez les nourrissons et les autres enfants, cela est dû au fait que certains ne sont pas nourris au sein maternel dès la naissance. Il faut rappeler que le plus grand fardeau de toutes les formes de malnutrition est supporté par les enfants des communautés les plus pauvres et marginalisées.
Alors que les cas confirmés de COVID-19 ne cessent d'augmenter, les experts s'inquiètent de voir toute une génération d'enfants qui subiront les effets de la malnutrition pendant les prochaines années.
C'est ici, chers auditeurs, que s'achève votre santé, votre avenir. La première partie de cette édition hebdomadaire était consacrée aux oreillons. Notre invité, le docteur Constantine Tienkou, virologue, hématologue, oncologue et pédiatre en Virginie, ici aux États-Unis, nous a expliqué entre autres les symptômes qui permettent de reconnaître la maladie. Il a aussi parlé des complications liées aux oreillons,
notamment comment ils peuvent affecter ou compromettre la stérilité chez l'homme s'ils sont maltraités ou négligés. Dans la deuxième partie, vous avez suivi Carnet de santé présenté par Mouhamadou Oumpa. Ce programme santé a été réalisé grâce au concours de Michel Joseph. Il vous a été présenté par Nani Totalani. Continuez d'écouter VO Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.